Chapitre 53. Des portails. Alors qu'elle traversait le village de la Tour Noire avec Javindra et Mazrim Taïm, Pevara ne desserra pas les lèvres. L'endroit grouillait d'activité, mais il en allait toujours ainsi à la Tour Noire. Non loin de là, des soldats abattaient des arbres, retirant l'écorce des troncs déjà coupés, des dédiers les débitaient en tronçons avec des flux d'air condensés. De la sciure recouvrait le chemin. Non sans frissonner, Pevara comprit que les planches empilées sur un côté devaient avoir été taillées par des achamans. Lumière. Elle savait à l'avance ce qu'elle trouverait ici. Mais voir les choses en face était plus difficile qu'elle l'aurait cru.
« Regardez bien !»
dit Taïm, qui marchait avec dans son dos un poing serré. De l'autre main, il désigna dans le lointain une muraille noire en cours de construction.
Des postes de garde placés à 50 pieds d'intervalle. Sur chacun, 2 achamans.
Il sourit de satisfaction.
Cet endroit sera imprenable.
Oui, vraiment impressionnant,
dit Javindra d'un ton presque distrait.
Mais le sujet dont je voulais parler avec toi, si nous pouvions choisir des porteurs du dragon pour...
Encore cette histoire,
s'exclama Taïm. Du feu brûlait dans les yeux de cet homme. Grand, les cheveux noirs, il était doté de pommettes hautes, comme beaucoup de ses compatriotes du Saldaïa. Il sourit, enfin, il eut une expression qui pouvait s'approcher d'un sourire, sans que ses yeux soient concernés, restant ceux d'un prédateur.
« Je t'ai dit ce que j'en pensais, et pourtant, tu insistes. La réponse est non. Seulement des soldats et des dédiés. »«
S'il en est ainsi, »
fit Javindra,
« nous continuerons à réfléchir. »
Les semaines passent,
répliqua Taïm,
et vous continuez à réfléchir. Loin de moi l'idée de critiquer les Aes Sedai. En réalité, je me fiche de ce que vous faites. Mais les femmes qui attendent de l'autre côté du mur prétendent aussi venir de la Tour Blanche. Ne veux-tu pas que je les invite à vous rencontrer?
Pevara frissonna. Cet homme semblait toujours en savoir plus long qu'il l'aurait dû. Et si c'était exact au sujet de la politique interne de la Tour Blanche,
« ce ne sera pas nécessaire, »
répondit froidement Javindra.
« Comme tu voudras. Mais il faudra te décider vite. Elles s'impatientent, et Altor les a autorisées à lier mes hommes. Elles ne supporteront pas éternellement, mais atermoiement.
Ce sont des renégates. Tu ne devrais même pas les écouter.
Des renégates, peut-être, mais plus nombreuses que vous. Combien de sœurs as-tu avec toi?
5?
Et à t'entendre parler... On dirait que vous comptez lier tous les hommes de la Tour Blanche.
Nous devrions peut-être le faire,
dit Pevara.
On ne nous a pas fixé de limite.
Quand Taïm la dévisagea, la sœur rouge eut le sentiment d'être sous le regard d'un loup se demandant si elle ferait un bon repas. Elle repoussa cette impression désagréable. Une sœur n'avait rien à voir avec un quartier de viande. D'accord, mais comme l'avait dit Taïm, elle n'était que 6. Dans un camp où grouillaient des centaines d'hommes capables de canaliser.
Un jour, dit Taïm, j'ai vu un pigargue à tête blanche agoniser sur les quais du port d'Iliane. Cet oiseau s'étouffait parce qu'il avait tenté d'avaler 2 poissons en même temps.
L'as-tu aidé, ce pauvre petit?
Demanda Javindra.
Quand ils ont les yeux plus gros que le ventre, les crétins s'étouffent toujours,
répondit Taïm.
Qu'est-ce que ça peut me faire? Ce soir-là, j'ai eu un dîner délicieux, un oiseau farci aux poissons. Bon, il faut que j'y aille. Mais soyez prévenus, toutes. Maintenant que j'ai un périmètre de défense, il faudra m'avertir si vous voulez le franchir.
Tu veux contrôler les entrées et les sorties?
Demanda Pevara.
Le monde est devenu dangereux, dit Taïm. Je dois penser aux besoins de mes hommes.
Pevara avait remarqué de quelle façon Taïm pensait aux besoins de ses hommes. Quelques jeunes soldats croisèrent leur chef et le saluèrent. 2 d'entre eux avaient le visage tuméfié, avec en plus un œil gonflé et fermé. Pour le plus petit. Durant leur formation, les achamans se faisaient tabasser quand ils commettaient des erreurs. Puis Taïm leur interdisait de recourir à la guérison. Les Aes Sedai, elles, ne risquaient rien, mais la déférence qu'on leur manifestait confinait à la moquerie. Taïm s'éloigna pour aller rejoindre 2 de ses achamans qui l'attendaient près d'une forge. Aussitôt, le trio commença à parler à voix basse.
« Je n'aime pas ça, »
dit Pevara, dès que les hommes furent hors de portée d'oreille. Ou peut-être même avant. S'ils avaient entendu, il n'était jamais bon de trahir ses inquiétudes. mais cet endroit lui tapait sur les nerfs.
Cette affaire risque de tourner au désastre. Je crois que nous devrions suivre le plan initial, lier quelques dédiés et retourner à la Tour Blanche. Notre mission n'a jamais été de conquérir toute la Tour Noire, mais d'avoir accès aux Achamans et d'en apprendre plus long sur eux. C'est ce que nous faisons,
dit Javindra.
Cette dernière semaine, j'ai appris beaucoup de choses, pas toi ?
Pevara fit mine de ne pas relever le ton agressif de sa collègue. Devait-elle vraiment être si contrariante ? Qui était la chef de cette équipe ? Pevara et personne d'autre. Les cinq sœurs lui devaient obéissance, mais à l'évidence, elle n'en était pas toujours ravie.
« Nous avons eu beaucoup de chance, »
dit Javindra, en balayant du regard le complexe de la Tour Noire.
« Et sur l'histoire des Achamans, je crois qu'il finira par céder. »
Pevara plissa le front. Javindra ne pouvait pas penser une chose pareille. Pas vrai ? Après que Taïm se fût montré si entêté ? Oui, Pevara avait accepté que l'équipe reste un peu plus longtemps à la Tour Noire pour découvrir comment elle fonctionnait et pour tenter de convaincre Taïm de laisser les sœurs liées des Achamans accomplies. Mais aujourd'hui, on ne pouvait plus espérer que ça fonctionnerait. Et Javindra devait bien en avoir conscience. Hélas, Pevara, ces derniers temps, avait de plus en plus de mal à comprendre sa collègue. Au début, elle semblait contre l'idée de venir à la Tour Noire. Mais elle avait plié devant la volonté de la dirigeante de leur Aja. Et voilà qu'elle plaidait pour un séjour prolongé.
« Javindra, »
dit Pevara,
« as-tu entendu Taïm ? Désormais, pour partir, nous avons besoin de sa permission. Cet endroit devient une prison. » « Je crois que nous sommes en sécurité, »
objecta Javindra.
« Il ignore que nous disposons de portails. Ça, c'est toi qui le dis. Il le sait peut-être. Si tu en donnes l'ordre, les autres s'en iront. Moi, je veux rester et continuer à apprendre. »
Pevara inspira à fond. Quel casse-pied, celle-là ! Elle envisageait vraiment d'ignorer l'autorité de la chef du groupe, après que la dirigeante de la Jarouge en personne lui eut conféré son pouvoir ? Lumière. Mais cette pauvre Javindra perdait la tête. Les deux sœurs se séparèrent sans un mot de plus. Faisant demi-tour, Pevara marcha à grandes enjambées, luttant pour ne pas exploser. Là, Javindra était passé à un souffle de l'insubordination. Eh bien, si elle voulait désobéir et rester ici, libre à elle. Mais il était temps de retourner à la Tour Blanche. Des hommes en veste noire allaient et venaient autour de Pevara. Plusieurs la saluèrent avec des sourires obséquieux et un respect de façade. Des semaines de séjour n'avaient rien fait pour mettre Pevara mieux à l'aise avec ses hommes. Pourtant, elle entendait en prendre trois pour champion. Trois, ce serait gérable, non ? Ses regards noirs. On eût dit des bourreaux attendant que le condamné suivant avance vers eux. Il y avait aussi ceux qui parlaient tout seuls, sursautaient pour un rien, ou se tenaient la tête à deux mains, l'air confus. Pevara vivait au milieu d'un nid de démons, et ça lui donnait des frissons, comme si des chenilles rampaient en permanence sur sa peau. Elle accéléra encore le pas.
« Non, »
pensa-t-elle.
« Je ne peux pas laisser Javindra ici. En tout cas, pas sans essayer encore une fois. »
Elle allait tout expliquer aux autres, puis leur donner l'ordre de partir. Ensuite, elle leur demanderait de parler à Javindra, et Tarna passerait la première. Leurs arguments réunis la convaincraient sans doute. Pevara atteignit les cabanes où ses compagnes et elle résidaient. Délibérément, elle ne regarda pas sur le côté, là où s'alignaient les petits bâtiments alloués aux Aes Sedai déjà liés. D'après ce qu'elle avait entendu dire, certaines tentaient de contrôler leur achaman en recourant à des méthodes non conventionnelles. Ça aussi, ça lui donnait des frissons. Alors que beaucoup de sœurs rouges, selon elle, avaient une opinion trop tranchée sur les hommes, ces femmes-là dépassaient vraiment les bornes. Dans sa cabane, elle trouva Tarna en train d'écrire une lettre. Les Aes Sedai étant contraintes de partager leur logement, elle avait délibérément choisi Tarna. Pas pour rien. Si Pevara dirigeait ce groupe, Tarna était la gardienne des chroniques. En clair, les implications politiques de cette expédition s'avéraient délicates. Car bien des sœurs rouges éminentes y participaient, chacune ayant des opinions différentes de celles des autres. La veille, Tarna avait admis qu'il était temps de partir. Avec Pevara, elle avait travaillé sur la façon d'approcher Javindra.
Taïm a bouclé la Tour Noire,
annonça Pevara très calmement. Dans la petite chambre circulaire, elle s'assit sur son lit.
Désormais, il nous faut son autorisation pour partir. Il m'en a informé l'air de rien, comme si ça ne nous visait pas spécifiquement. Une nouvelle règle vis-à-vis de laquelle il a oublié de nous fournir une exemption. Tu dramatises. C'est très certainement un oubli. Je parie que ce n'est rien.
Pevara en resta bouche bée.
Quoi ? Javindra continue à croire qu'il nous laissera lier des achamans. C'est du délire. Il est temps de prendre pour champion quelques dédiés et de filer. Hélas, elle s'entête à vouloir rester en dépit de mes ordres. Je veux que tu lui parles.
Pour n'en rien te cacher,
fit Arna en continuant à écrire.
J'ai repensé à ce que nous avons dit hier. J'ai peut-être été un peu rapide. Ici, nous avons beaucoup à apprendre. Et il y a aussi les renégates. Si nous partons, elles finiront par lier des achamans, ce qui ne doit pas arriver.
Tarna leva la tête. Pevara, elle, se pétrifia. Dans les yeux de cette femme, il y avait quelque chose de différent, une sorte de glace. D'habitude, elle était distante, mais là, c'était plus que ça. Tarna sourit. Sur son visage, ça se traduisait par une grimace qui n'avait rien de naturel. Comme une risette sur les lèvres d'un cadavre. Elle recommença à écrire.
« Quelque chose ne va pas du tout, »
pensa Pevara.
« Eh bien, tu as peut-être raison. »
s'entendit-elle dire. Sa bouche parlait, mais son esprit renâclait.
« Cette expédition était ton idée, après tout. Je vais y réfléchir, si tu veux bien m'excuser. »
Tarna eut un vague geste de la main. Pevara se leva. Après des années à porter le châle, elle parvint à ne pas montrer son inquiétude, mais de justesse. Elle sortit, se dirigea vers l'est, puis longea le mur en construction. Oui, il y avait des postes de garde à intervalles très réguliers. Plus tôt dans la matinée, ils n'étaient pas occupés. À présent, des hommes capables de canaliser s'y tenaient. L'un d'eux pourrait la tuer avant même qu'elle ait réagi, car elle ne verrait pas ce tissage. Quant à frapper la première, il n'en était pas question, à cause des trois serments. Pevara se dirigea vers un petit bosquet, un endroit qui deviendrait bientôt un jardin. Sous le couvert des arbres, elle s'assit sur une souche et respira à fond. La froideur, presque une absence de vie qu'elle avait vue dans les yeux de Tarna, la hantait toujours. Selon les ordres de la dirigeante de son aja, il ne fallait pas tisser de portail, sauf en cas d'urgence absolue. Eh bien, on y était, et même en plein. Elle s'unit à la source et tissa les flux requis. Ils se dissipèrent avant qu'elle en ait terminé. Pas l'ombre d'un portail. Les yeux ronds de surprise, elle essaya de nouveau et obtint le même résultat. D'autres tissages réussirent, mais jamais celui-là. Cette fois, elle eut des frissons glacés. Elle était piégée à la tournoire. Elle l'était toute. Perrine serra la main de Matt.
« Bonne chance, mon ami !»
Le jeune flambeur sourit et tira sur le bord de son chapeau noir.
« Chance ? J'espère bien que ça se jouera là-dessus. La chance, c'est ma spécialité. »
Sur une épaule, Matt portait un lourd paquetage, comme le vieillard ratatiné qu'il avait présenté sous le nom de Noal. Lesté d'un même fardeau, Tom avait accroché sa harpe dans son dos. Perrine n'avait toujours pas très bien compris ce qu'ils emportaient. Matt ayant prévu de rester quelques jours à la tour, il n'aurait pas besoin de tant de matériel. Le petit groupe était réuni sur le site de voyage, juste à l'extérieur du camp de Perrine. Derrière eux, les hommes du jeune seigneur démontaient les tentes et tout le reste. Aucun n'avait la moindre idée de l'importance de cette journée. Moiraine était vivante.
« Enfin, espérons-le. Tu es sûr de ne vouloir personne d'autre, Matt ?»«
Certain. Désolé, mon vieux. Cette affaire est... particulière. La lettre était très claire. » Si nous sommes plus de trois à entrer, nous échouerons. Et si on échoue à trois, eh bien, ce sera la faute de cette fichue bonne femme.
Perrine fronça les sourcils.
Sois prudent, surtout. Chez Maître Denetzel, j'espère bien puiser de nouveau dans ta blague et tabac. Pour ça, il faut que tu reviennes.
Tu puiseras, c'est promis,
dit Tom, en serrant lui aussi la main de Perrine. Il hésita, souriant et les yeux un peu pétillants.
Quoi ?
Demanda Perrine. Tom ajusta la position du paquetage sur son épaule.
« Tous les garçons de ferme que je connais se seront-ils transformés en seigneurs quand cette histoire sera finie ?»«
Moi, je n'ai rien d'un noble !»
assura Matt.
« Toi, le prince des corbeaux ?»
railla le trouvère. Matt tira son chapeau sur ses yeux.
« Les gens peuvent m'appeler comme ils veulent. Ça ne signifie pas que je suis de la haute. »«
Pourtant, »
insista Tom,
« tu...
comptez ce portail !»
coupa Matt, histoire d'en terminer.
« Plus d'absurdité !»
Perrine fit signe à Grady. Une fois ouvert, le portail révéla un fleuve au cours majestueux.
« Grady ne peut pas vous conduire plus près, »
expliqua Perrine.
pas sans une description précise des lieux. Ça ira,
affirma Matt. Il passa la tête à travers le portail.
Nous en aurons un pour revenir ?
Tous les soirs à minuit, dit Grady, répétant l'ordre donné par Perrine.
Au même endroit,
il sourit.
Soyez attentif à ne pas vous faire couper les orteils, maître Cotton.
Je me concentrerai. Avec le temps, on s'attache à ces petites choses.
Sur ces mots, le jeune flambeur franchit le portail. Toujours taciturne, Noal le suivit, la détermination dominant dans son odeur. Ce type était bien plus coriace qu'il en avait l'air. Tom salua Perrine de la tête, sa moustache ondulant, puis il traversa à son tour. Malgré sa jambe raide, l'héritage d'un combat contre un blafard 2 ans plus tôt, ce trouvère était extraordinairement agile.
« Que la lumière vous guide !» pensa Perrine.
De la main, il salua les 3 compagnons, qui s'éloignaient déjà sur la berge. « Moiraine, Perrine devrait prévenir Rand. » Les couleurs apparurent, suivies par une image de Rand en grande conversation avec un groupe de frontaliers. Non, le prévenir était hors de question. Pas avant d'être certain que Moiraine avait survécu. Agir autrement serait cruel et inciterait le dragon à fourrer son nez dans la mission de Matt. Dès que le portail se referma, Perrine fit demi-tour et s'éloigna. En marchant, il sentit l'ombre d'une douleur dans sa jambe blessée par une flèche de tueur. Pourtant, il avait été guéri, et pour autant qu'il pouvait le dire, il ne gardait aucune séquelle. En tout cas, rien de visible. Mais sa jambe semblait se souvenir de la blessure. Comme si c'était un fantôme, bien présent. Fail vint à la rencontre du jeune homme, son odeur trahissant une vive curiosité. Gaol était avec elle. Et Perrine sourit de le voir jeter de fréquents coups d'œil derrière lui. Bien entendu, Bane et Shiad le suivaient comme son ombre. L'une portait ses lances et l'autre son arc, pour le soulager apparemment.
« J'ai raté le départ ?»
demanda Fail.
« Comme tu l'avais prévu, »
répondit Perrine.
« Matrim Cotton a une mauvaise influence sur toi. Je suis surprise qu'il ne t'ait pas entraîné dans une autre taverne avant de s'en aller. »
Bizarrement, les couleurs apparurent, montrant Matt, que Perrine venait juste de quitter, en train de longer le fleuve.
« Il n'est pas si mauvais que ça, Fail. Nous sommes prêts ?»«
Aravine a tout organisé. On devrait pouvoir partir dans l'heure. »
Un très bon pronostic. Une demi-heure plus tard, Perrine se campa sur le côté d'un énorme portail ouvert par Grady et Nehald, lié à Aes Sedai et à Edara. Personne n'avait contesté la décision du jeune seigneur. Si Rand se dirigeait vers le camp de Merilor, eh bien, c'était là qu'il fallait aller. Là que Perrine devait aller. De l'autre côté du portail, le terrain était plus accidenté que dans le sud d'Andorre. Moins d'arbres et plus de prairies. Dans le lointain, des ruines se dressaient. Devant Perrine, sur une vaste plaine, des camps s'alignaient à l'infini, véritable forêt d'étendard. Apparemment, la coalition des Gwen prenait forme. Grady jeta un coup d'œil de l'autre côté du portail et siffla entre ses dents.
« Combien ça fait de soldats ? »
demanda-t-il.
« Je vois les 3 croissants de lune de Théar, »
dit Perrine en désignant un étendard.
« Et le drapeau de Liliane. Les 2 groupes campent chacun d'un côté du champ. »
Un étendard orné de 9 abeilles d'or identifiait l'armée ilianienne.
« Il y a aussi beaucoup de maisons du Caerien, »
fit remarquer Fail.
« Mais pas d'Aiel, ni d'étendard de terre frontalière. »
« N'ai jamais vu tant de combattants au même endroit, »
souffla Grady.
« L'ultime bataille approche pour de bon, »
pensa Perrine.
« Nous y sommes. »«
Ces troupes suffiront-elles pour arrêter Rand ?»
s'enquit Fail.
« Il faut qu'elles nous aident à l'empêcher de briser les sceaux. »«
Nous aident ?»
répéta Perrine.
« N'as-tu pas dit à Elaine que tu devais aller au camp de Merilor à cause du plan des Gwen ?»«
Il fallait que j'y aille, »
rectifia Perrine.
« Pas que je prendrais le parti des Gwen. » « J'ai confiance en Rand, Fail. Pour moi, il a raison de vouloir briser les sceaux. C'est comme forger une épée. En général, on refuse d'utiliser les pièces d'une vieille arme cassée et rouillée. Pour créer, on exige de l'acier neuf. Plutôt que de rapiécer les anciens sceaux, Rand devra en fabriquer de nouveaux. »«
C'est possible, »
admit Fail.
« Mais nous marcherons sur la corde raide. Tant d'armées au même endroit. Si certaines se rangent du côté de Rand alors que d'autres soutiennent la Tour Blanche,
en cas de conflit entre alliés, personne ne gagnerait. Donc, Perrine devrait s'assurer que ça n'arrive pas. Les soldats étaient déjà en formation, prêts à se mettre en marche. Perrine se tourna vers eux.
« Rand nous avait envoyé traquer un ennemi !»
cria-t-il.
« Nous revenons vers lui avec des alliés. En avant pour l'ultime bataille !»
Seuls les premiers rangs entendirent leur chef, mais ils l'acclamèrent, puis transmirent ces mots derrière eux. Rand ou Elaine se seraient sûrement fendus d'un discours plus enthousiasmant. Mais Perrine n'était ni l'un ni l'autre. Il devait faire les choses à sa manière.
« Aravine !»
lança-t-il à la magicienne rondelette.
« Fais traverser tout le monde, et assure-toi qu'il n'y aura pas de bagarre sur la disposition des camps. »«
Oui, seigneur Yeujaune. » »«
Pour l'instant, gardons nos distances avec les autres armées. Soline et Gao leur ont mission de choisir un bon site. Et faites passer le mot. Aucune interaction avec les autres troupes. Et pas davantage de regards noirs. Pas question non plus que nos hommes partent en vadrouille vers le sud. Nous ne sommes plus perdus au milieu de nulle part. Je ne veux pas que les fermiers du coin se plaignent de nos exactions.
« Oui, seigneur, »
répondit Aravine. Perrine ne lui avait jamais demandé pourquoi elle ne s'était pas jointe à un des groupes repartis pour la Madicia. À cause des Séanchaniens, sans doute. À l'évidence, elle était de sang noble, mais sur son passé, elle se montrait peu loquace. Quoi qu'il en soit, Perrine se félicitait de l'avoir à ses côtés. Régente du camp, en quelque sorte, elle était son agent de liaison entre les différentes factions qui le composaient. La garde du loup avait gagné le tirage au sort. Elle franchit le portail en premier. Alors que la colonne s'ébranlait, Perrine l'allongea et donna des ordres, en insistant sur l'interdiction de chercher des noises à quiconque. Il s'arrêta au début de la longue file de cas blanches et de gardes ailés en attente de leur tour. Berelaine à côté de Galad, ils étaient plongés dans une grande conversation. À première vue, cette femme passait tout son temps éveillée avec le jeune Damodred. Perrine n'avait pas placé ensemble les fils et les gardes ailés. Pourtant, ils s'étaient retrouvés côte à côte. Quand les fils se mirent en chemin en colonne par quatre, le soleil brodé sur leur poitrine étincelait à la lumière du jour. Dès qu'il les voyait, Perrine avait encore une poussée de panique. Pourtant, depuis le procès, il n'avait pas fait de vagues. Une sacrée surprise, ça. Lance levée, les gardes ailés de Mayenne avançaient sur un flanc des fils, Galen derrière Berelaine. Avec leurs plastrons et leurs casques polis à la perfection, plus le fanion rouge attaché à leur arme, ces hommes semblaient prêts pour un défilé. Et au fond, ils avaient raison. Quand on chevauchait vers l'ultime bataille, pourquoi ne pas bomber le torse et apparaître sous son meilleur jour? Perrine continua à allonger la formation. En colonne par huit, les cavaliers lourds d'Aliandre suivaient le bouillant Arganda. Dès qu'il vit Perrine, il donna quelques ordres. Aussitôt, tous les soldats tournèrent la tête vers le jeune seigneur et le saluèrent. Perrine leur rendit leur salut. Après consultation d'Aliandre, il savait que c'était la réponse adéquate. Assise de travers sur sa selle, la reine chevauchait à côté d'Arganda. Pour cette journée historique, elle avait choisi une robe marron brodée de fils d'or. Pas très commode pour une cavalcade, mais en réalité, personne ne resterait longtemps en selle aujourd'hui. En 300 pas, les armées auraient avalé au moins autant de lieues. Perrine vit qu'Aliandre appréciait de le voir saluer ses hommes. Plus globalement, elle se réjouissait qu'il assume son rôle de chef de la coalition. Et dans le camp, elle n'était pas la seule. Avant, ces gens devinaient-ils à quel point ils détestaient commander? Mais comment faisaient-ils alors qu'ils ne sentaient pas les émotions des autres?
« Seigneur Perrine, »
le salua Aliandre en passant devant lui. Elle s'inclina tout en se balançant sur sa selle. À cheval, c'était l'équivalent d'une profonde révérence.
« Tu ne devrais pas être sur ta monture, Seigneur ?»«
J'aime bien marcher. » »«
Sur un destrier, un chef a toujours plus d'autorité. »«
Aliandre, j'ai décidé de commander ces hommes. » Mais je le ferai à ma façon, ce qui veut dire en marchant quand j'en ai envie.
Pour traverser le portail, il fallait faire deux ou trois pas. À pied, ça allait tout aussi vite qu'à cheval.
Bien entendu, seigneur,
fit la reine.
Quand nous serons installés, je veux que tu renvoies des hommes à Jeanna. Il faudra recruter des gars, quitte à débaucher les gardes civils. Tous les bras seront bons à prendre. Bientôt, nous aurons besoin de tous les renforts possibles et imaginables. Si c'est faisable, j'aimerais qu'ils s'entraînent avant que cette guerre éclate.
Très bien, seigneur.
J'ai envoyé des recruteurs à Mayenne,
reprit Perrine.
Et Tam a raclé les fonds de tiroir à deux rivières.
Perrine aurait aimé laisser ses braves gars à l'arrière, sur leur terre, afin qu'ils vivent en paix pendant que la guerre ferait rage très loin de là. Mais ce n'était pas possible. On en était à la fin, il le sentait, en bout de course. Si elle ne gagnait pas cette bataille, l'humanité ne s'en remettrait jamais. Elle perdrait le monde et la trame. Pour empêcher ça, Perrine avait des jeunes paysans sans expérience militaire et des vétérans qui tenaient encore debout par miracle. Même si le reconnaître lui retournait l'estomac, l'affaire était mal engagée. Il continua à descendre le long de la colonne. Au passage, il donna des ordres à plusieurs groupes qui semblaient ne pas savoir ce qu'il fichait là. Alors qu'il s'efforçait de préparer mentalement un de ces groupes, Perrine aperçut du coin de l'œil une poignée de gardes de rivière. L'un d'eux, Adzi, portait l'étendard à la tête de loup. Jory Kongar s'arrêta, regarda ses camarades s'éloigner et approcha de son chef. Quelque chose ne tournait pas rond. Grand et mince, Jory faisait irrésistiblement penser à un échassier.
« Seigneur Perrine, je... »«
Alors n'hésite pas ainsi, je t'écoute. »«
Je voulais m'excuser. »
dit très vite Jory.
« De quoi ?»«
D'avoir dit des choses. Des bêtises, tu comprends ? C'est à propos du jour où tu étais malade et où on t'a porté sous la tente de la première dame. Eh bien... »«
Oublie ça, Jory. Je comprends. »«
Seigneur Perrine, c'est un plaisir d'être ici avec toi. Vraiment. Les autres et moi, on te suivrait n'importe où. »
Sur ces mots, Jory salua et s'esquiva. Le regardant s'éloigner, Perrine se gratta le menton. Ces derniers jours, beaucoup de gardes de rivière étaient venus s'excuser d'homme à homme. À première vue, il regretta d'avoir répandu des ragots sur Berelaine et lui, mais aucun ne l'avait dit si franchement. Que Feil soit bénie pour tout ce qu'elle avait fait. Quand il eut regardé passer tout le monde, Perrine prit une grande inspiration et traversa à son tour.
« Rand, ne tarde pas à arriver !»
pensa-t-il, les couleurs s'éveillant dans sa tête.
« Je sens que c'est déjà commencé. »
Flanqué de Tom et de Noal, Matt observait la tour qui se dressait devant eux. Dans leur dos, un cours d'eau gazouillait avec une étrange musicalité. Un bras très mineur du lointain fleuve Arinel, probablement. Pour l'atteindre, il aurait fallu traverser une vaste plaine semée d'herbes jaunies. Matt se demanda s'il était déjà passé par là. Dans sa tête, tout ce qui remontait à cette époque était fragmenté. Un fatras de visions sans lien entre elles. Pourtant, l'image de cette tour vue d'assez loin était très claire dans son esprit. Même les ténèbres de Shadar Logoth n'étaient pas parvenues à la troubler. La tour brillante semblait entièrement composée de métal. Matt sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Beaucoup de voyageurs tenaient cet édifice pour une relique de l'âge des légendes. Que pourrait être d'autre une flèche d'acier érigée au milieu de la forêt et paraissant inhabitée? Ce lieu se révélait aussi peu naturel que l'étaient les portiques rouges distordus. Oui, ceux qui attiraient les yeux des gens. Dans cette zone étrangement silencieuse, on n'entendait rien, à part l'écho des pas des trois aventuriers. Noal marchait en s'aidant d'un bâton plus haut que lui. Où diable l'avait-il déniché? À son aspect lisse et brillant, ce morceau de bois avait passé plus de temps sous la forme d'un bâton de marche qu'accroché à un arbre. Noal portait un pantalon bleu tellement foncé qu'il en paraissait noir, et une chemise d'un style étrange inconnu du jeune flambeur. En tout cas, les épaules semblaient bien mieux cousues que sur les liquettes du tout-venant. Plus redingote qu'autre chose, la veste de Noal lui tombait presque jusqu'aux genoux. Boutonnée à la taille, elle se déployait en éventail sur les jambes. Un étrange accoutrement. Cela dit, le vieux Noal refusait toujours de répondre aux questions de Matt. Et il risquait fort de continuer. Tom paradait en costume de trouvère. Le voir ainsi, plus sous les traits d'un barde de cour frileux et peureux, était un vrai plaisir. La cape multicolore, la chemise simplement lacée, le pantalon moulant glissé dans les bottes. Quand Matt l'avait interrogé à propos de ses choix, Tom avait haussé les épaules avant de lâcher.
« Je me suis dit que c'était une tenue idéale pour la revoir enfin, si ça arrive. »
Le là était pour Moiraine, bien entendu. Ces maudits serpents et renards, qu'avaient-ils fait à cette pauvre femme? Leur séparation remontait à si longtemps. Mais Matt était décidé à la trouver au plus vite. Pour cette mission, il avait choisi une tenue vert forestier et ocre. Un manteau sombre complétait sa mise. Portant son paquetage d'une main, il tenait sa lance de l'autre. Après s'être entraîné avec le nouveau contrepoids de l'embout, il était extrêmement satisfait. Cette arme était un cadeau des Elfines. Eh bien, si elle tentait de s'interposer entre Moiraine et lui, ces créatures verraient ce qu'il était capable de faire avec. Sur sa propre tête, Matrim Cotton le jurait. Haute de 200 pieds au moins, la tour d'acier n'avait aucune issue visible. Pas de fenêtre, de joint, ni même de rayure. Levant la tête, Matt sonda le ciel qui s'assombrissait déjà. La tour reflétait-elle vraiment trop de lumière pour cette heure de la journée? Matt frissonna et se tourna vers Tom. Puis il hocha la tête. Après une brève hésitation, le trouvère dégaina le couteau de bronze accroché à sa ceinture, avança et plaqua la pointe sur l'acier lisse et froid. Puis il dessina un triangle, la pointe vers le bas. Le métal grinça contre le métal, mais ne laissa pas de rayures. Comme on le faisait au début de chaque partie de Serpent et Renard, le trouvère acheva son ouvrage en dessinant une ligne ondulée qui traversait le triangle.
« Tu as fait ce qu'il fallait ?»
demanda Matt.
« Je crois, oui, »
répondit Tom.
« Mais comment savoir ce qui est bien fait ou non ? Ce jeu se transmet de génération en génération depuis... »
Le trouvère se tut quand une ligne lumineuse apparut sur l'acier. Reculant d'un bond, Matt leva sa lance. La ligne forma un triangle qui se superposa à celui que Tom avait dessiné. En un éclair, un disque de métal disparut au centre de la figure géométrique. Noal regarda le trou de la taille d'un point. Il avança et évalua l'ouverture.
« C'est un peu étroit pour traverser. Et de l'autre côté, il n'y a que des ténèbres. »
Tom baissa les yeux sur son couteau.
« Je parie que les triangles sont en réalité des portails. C'est pour ça qu'on doit en dessiner un avant de jouer. Tu veux que j'essaie avec un plus grand ?»«
Ce serait rudement bien, »
répondit Matt.
« Sauf si le golem t'a appris à te faufiler par les trous de souris. »
soupira Tom. Avec son couteau, il dessina un triangle autour du premier. Assez grand celui-là pour qu'on puisse traverser sans peine. Puis il prolongea sa ligne ondulée. Matt compta 7 battements de cœur avant que les lignes blanches lumineuses apparaissent. Entre elles, l'acier fondit, puis se volatilisa, remplacé par l'entrée d'un couloir qui s'enfonçait dans la tour. À l'intérieur, tout semblait être en métal.
« Que la lumière me brûle !»
souffla Noal. Le couloir disparaissait dans une obscurité où la lumière du soleil semblait hésiter à entrer. Une illusion d'optique, sûrement, mais quand même.
« Ainsi, nous allons jouer au jeu auquel on ne peut pas gagner, »
dit Tom en regainant son couteau.
« Courage pour fortifier, »
murmura Noal en avançant, une lanterne au poing.
« Feu pour aveugler, musique pour étourdir, fer pour attacher. »
« Et Matrim Cotton pour égaliser les chances, »
ajouta Matt en traversant l'ouverture. Une lumière brillante l'aveugla. En jurant comme un charretier, il ferma les yeux et baissa sa lance, adoptant ce qu'il espérait être une posture menaçante. Dès qu'il rouvrit les yeux, la lueur devint moins agressive. Il était au centre d'une grande pièce, une ouverture triangulaire flottant derrière lui, pointe orientée vers le sol. D'un noir d'ébène, celui-ci semblait fait de cordes noueuses entrelacées, qui paraissaient par endroits métalliques et qui auraient pu être en bois sur d'autres emplacements. La pièce noire faisait penser à un cube géant un peu tordu. Aux 4 coins inférieurs, une vapeur blanche s'échappait de plusieurs trous. Une sorte de brume, mais illuminée de l'intérieur. 4 couloirs partaient de cette salle. Si elle semblait bancale, c'était parce qu'aucun côté n'avait la même longueur qu'un autre. Du coup, les angles dans les coins ne pouvaient pas être réguliers. Et ce maudit brouillard. Puant le soufre, il donnait à Matt l'envie de respirer par la bouche. Les murs noirs, constata-t-il, n'étaient pas en pierre, mais dans un étrange matériau réfléchissant, comme les écailles d'un poisson géant. Au plafond, la brume brillante s'accumulait.
« Que la lumière me brûle !»
tempêta Matt. Ce n'était pas comme le premier endroit qu'il avait visité par le passé, avec ses portes circulaires et ses anneaux tordus. Hélas, ce n'était pas non plus comme le deuxième, avec des pièces en forme d'étoiles et des lignes de lumière jaune. Dans quoi s'était-il fourré ? Il pivota sur lui-même, méfiant. Ébloui et sonné, Tom entra en titubant. Lâchant son paquetage, Matt le soutint par un bras. Noal arriva peu après. Lui, il marchait droit, mais il était à l'évidence aveuglé, sa lanterne brandie comme une protection. Matt et Tom battirent des paupières, tandis que des larmes ruisselaient des yeux de Noal. Quand tous allèrent mieux, ils entreprirent de regarder autour d'eux. Comme les couloirs qui en partaient, la pièce était déserte.
« Ça ne ressemble pas à ce que tu décrivais, Matt, » dit Tom.
Sa voix semblait générer un écho presque inaudible et bizarrement distordu, comme si des murmures revenaient vers les 3 hommes, poussés par il ne savait quoi. Matt sentit se hérisser tous les petits poils de sa nuque.
« Je sais, »
dit-il, en sortant une torche de son sac.
« Cet endroit n'a aucun sens. » Toutes les histoires s'accordent à le dire. Allume-moi ça avec ta lanterne, Noal.
Tom sortit lui aussi une torche et la fit embraser par le vieil homme. Ils avaient également des allumettes d'Aludra, mais Matt entendait les économiser. Jusque-là, et sans le dire, il avait eu peur que les flammes dans la tour s'éteignent dès qu'on les ferait apparaître. Apparemment, il s'était trompé. De quoi lui remonter le moral.
« Alors, où sont-ils ? »
demanda Tom en faisant le tour de la salle.
« Ils ne sont jamais près de l'endroit par où on rentre, »
répondit Matt. Levant sa torche, il étudia un mur. Sur la pierre qui n'en était pas, voyait-il vraiment des inscriptions ? Quoi qu'il en soit, il repéra des lignes si fines et délicates qu'il les distinguait à peine.
« Mais restez sur vos gardes. Ils peuvent apparaître derrière vous plus vite qu'un aubergiste qui entend des pièces cliquetées dans une bourse. »
Noal inspecta l'ouverture triangulaire par laquelle ils étaient passés.
« Tu crois qu'on peut l'utiliser pour sortir ?»
Le passage ressemblait au terrain gréal de pierre rouge que Matt avait traversé la première fois. Seule la forme était différente.
« J'espère que oui, »
répondit-il.
« On devrait essayer, »
proposa Noal. Matt approuva du chef. Il n'aimait pas l'idée que le trio se sépare, mais il devait savoir si c'était ou non une sortie. Toujours déterminé, Noal franchit l'ouverture et disparut. Matt retint son souffle un long moment. En vain, le vieil homme ne revenant pas, était-ce un piège ? Cette ouverture se trouvait-elle là pour... Titubant, Noal déboula dans la pièce. Tom posa sa torche et courut l'aider, histoire qu'il ne se casse pas la figure. Mais le vieil homme reprit très vite son équilibre et sembla recouvrer la vue avec moins de difficulté que la fois précédente.
« Je me suis retrouvé enfermé dehors, »
dit-il.
« Pour revenir, j'ai dû dessiner un nouveau triangle. »
« Au moins, on sait que c'est un moyen de filer, »
dit Tom.
« Si ces maudits Aelfines ou Aelfines ne déplacent pas le triangle, »
pensa Matt. Il se souvint de sa visite précédente, où il avait fini pendu. Ce jour-là, les salles et les couloirs fluctuaient mystérieusement, au total mépris de toutes les règles.
« Vous avez vu ça ?»
lança soudain Tom. Matt abaissa sa lame et une épée courte en fer apparut comme par miracle dans la main de Noal. Tom désignait sa torche, qui continuait à brûler non loin des orifices de ventilation d'où sortait la brume. Le brouillard blanc s'écartait de la flamme, comme si une brise le poussait. N'était qu'aucun vent n'aurait pu imprimer un mouvement si peu naturel à de la brume. À y regarder de plus près, celle-ci décrivait une boucle pour contourner la flamme. Tom approcha et ramassa la torche. Il la passa le long de la colonne de brume, qui se plia pour s'écarter. Quand le trouvère insista, tendant un bras afin que la torche s'enfonce dans le brouillard, celui-ci se divisa, esquiva l'obstacle et se reforma juste au-dessus. Tom regarda ses compagnons.
« Ne me demande pas !»
grogna Matt.
« J'ai dit que cet endroit n'a aucun sens. Si c'est la chose la plus bizarre que nous verrons ici, je veux bien être pris pour la moustache d'un Mourandien. Allez, avançons !»
Matt choisit un couloir et s'y enfonça, ses compagnons sur les talons. Ici aussi, la brume s'accumulait au plafond et fournissait une chiche lumière. Le sol, lui, était composé de carreaux triangulaires qui, une fois de plus, rappelaient désagréablement des écailles. Dans ce couloir large et long, l'autre bout était lointain et obscur.
Quand on pense que tout ça est contenu dans une seule tour,
soupira Noal, lanterne toujours brandie.
« Je doute que nous soyons encore dans la tour, »
dit Matt. Devant lui, en hauteur, il distingua une ouverture dans le mur. Une sorte de fenêtre, mais placée bien trop haut pour que ce soit naturel.
« Eh bien, ça alors !»
fit Noal quand ils atteignirent la fenêtre. Une structure carrée, mais disposée de guingois. À travers, les trois compagnons découvrirent un paysage qui n'avait lui non plus rien de naturel. Il se trouvait bien à plusieurs étages de hauteur dans une tour, mais dehors, ce n'était pas le royaume d'Andorre qui s'étendait. La fenêtre donnait sur une canopée très dense et beaucoup trop jaune. Matt reconnut les arbres fins dotés d'une sorte d'ombrelle de feuilles à la cime. La fois précédente, il les avait vus d'en bas. Les arbres semblables à des fougères aux feuilles pendantes lui rappelèrent aussi quelque chose. Mais ceux-là portaient à présent de gros fruits noirs qui provoquaient la chute de leurs feuilles.
« Le vanneur ait pitié de nous !»
murmura Noal. Une phrase que Matt n'avait jamais entendue. Noal avait de bonnes raisons d'être stupéfié. Matt se souvint du premier coup d'œil qu'il avait jeté sur cette forêt. En un éclair, il avait compris que le portique distordu ne lui avait pas donné accès à un autre endroit, mais à un autre monde. Il jeta un coup d'œil sur le côté. Allait-il voir les trois flèches qu'il avait remarquées lors de sa première visite ? Elles brillaient par leur absence, mais ici... La fenêtre suivante avait des chances de donner sur un paysage radicalement différent. Il pouvait... Le jeune flambeur regarda soudain par la fenêtre. Sur la gauche, il parvint à distinguer une flèche. Alors, il comprit. Il était dans une des tours qu'il avait vues de loin lors de sa première visite. Réprimant un frisson, il se détourna de la fenêtre. Au moins, il avait désormais la certitude d'être au même endroit que la première fois. Devait-il en conclure que les A-Elfines et les E-Elfines se partageaient un monde? Eh bien, il fallait l'espérer. Moiraine était tombée dans le second portique distordu. En d'autres termes, elle avait été capturée par les E-Elfines, à savoir les renards. Sa pendaison, c'était à eux que Matt la devait. Quant aux serpents, ils l'avaient seulement éjectée de leur monde sans l'ombre d'une réponse utile. Pour ça, il leur devait un chien de sa chienne. Mais les renards avaient refusé de répondre à ses questions. En revanche, ils lui avaient implanté ses fichus souvenirs. Matt et ses compagnons reprirent leur chemin, le bruit de leurs pas se répercutant dans le couloir. Très vite, le jeune flambeur eut le sentiment d'être observé. Il l'avait déjà éprouvé lors de ses précédentes visites, mais... Tournant la tête sur le côté, il capta un mouvement, loin derrière lui. Il se retourna, prêt à jeter sa torche et à se battre avec sa lance. Mais il n'y avait plus rien. Tom et Noël se pétrifièrent et regardèrent autour d'eux, tendus à craquer. Matt reprit son chemin et s'arrêta lorsque ce fut au tour de Tom de se retourner vivement. Nerveux, il alla jusqu'à lancer un couteau sur une zone un peu plus sombre d'un mur. L'arme rebondit contre la mystérieuse surface. Le bruit métallique se répercuta dans le couloir, bien trop longtemps pour que ce soit naturel.
« Désolé, » dit le trouvère.
« Aucun problème, » fit Matt.
« Il nous épie, pas vrai ?»
demanda Noël, d'un ton doux, presque calme. Lumière. Matt aurait juré qu'il allait sortir de sa peau et s'enfuir à toutes jambes, la laissant en arrière. Comparé à lui, Noël était un monument de sérénité.
« Je crois bien, oui, »
confirma Matt. Au bout du très long couloir, les trois compagnons entrèrent dans une salle identique à la première, n'était l'absence de portail triangulaire au centre. Là aussi, quatre couloirs et quatre directions. Et bien entendu, l'obscurité régnait dans chaque corridor. Sentant des regards pesés sur leur nuque, Matt et ses amis choisirent un couloir. Puis ils mémorisèrent le chemin qu'ils venaient de parcourir. Cette fois, le jeune flambeur accéléra le pas. Au bout du corridor, une autre salle, copie conforme de la précédente.
« Dans un endroit pareil, il est facile de se sentir désorienté, » dit Noël.
Ouvrant son sac, il en sortit une feuille et, avec un crayon, dessina trois points, puis les relia par des lignes. Le plan de la zone qu'il venait de traverser.
« Avoir une bonne carte, c'est rudement important. Ça fait même souvent la différence entre la vie et la mort. Sur ce point, vous pouvez me croire. »
Matt tourna la tête et sonda le couloir qu'il venait de traverser. Une part de lui voulait continuer sans regarder en arrière, mais il devait savoir.
« Venez avec moi, »
dit-il en rebroussant chemin. Tom et Noël s'interrogèrent du regard, mais ils suivirent le mouvement. Pour retourner dans la première salle, celle qui aurait dû contenir le triangle, il leur fallut une bonne demi-heure. Et comme le craignait Matt, de sortie, il n'y en avait plus. En revanche, le brouillard montait toujours des quatre coins inférieurs, comme dans les deux autres pièces.
« C'est impossible !»
s'écria Noël.
« Nous sommes très précisément revenus sur nos pas. La sortie devrait être là !»
Dans le lointain, Matt entendit des rires étouffés. Des sifflements, plutôt, dangereux et malveillants.
« Tom, »
dit-il, les sangs glacés.
« Connais-tu l'histoire de Birgit Arc d'Argent et de sa visite à la tour de Genjai ?»«
Birgit ?»
répéta le trouvère. Agenouillé comme Noël, il étudiait le sol. Apparemment, les deux hommes pensaient que l'ouverture triangulaire avait été escamotée par quelque trappe secrète.
Non, ça ne me dit rien.
Et l'histoire d'une femme coincée pendant 2 mois dans le labyrinthe de couloirs d'une forteresse?
2 mois? Non, inconnue au bataillon. Mais il y a la légende d'Elmira et des yeux fantômes. Elle a passé des semaines à errer dans un dédale, à la recherche de la célèbre source de guérison de Sund, afin de sauver la vie de son amoureux.
C'était probablement ça. La mésaventure de Birgit avait survécu au temps, mais en s'altérant peu à peu, un processus très fréquent.
Elle n'est jamais ressortie, pas vrai?
Non. Elle a fini par mourir à 2 pas de la fichue fontaine, mais avec un mur pour l'en séparer. Au moins, elle a entendu l'eau gazouiller. Ce fut même le dernier son qui atteignit ses oreilles avant qu'elle meure de soif.
Mal à l'aise, Tom regarda autour de lui. À l'évidence, évoquer une telle légende en ces lieux ne lui disait rien qui vaille. Matt secoua la tête, très inquiet. Que la lumière le brûle. Il abominait ces fichus renards. Il devait y avoir un moyen de...
« Tu as violé le pacte, »
dit une voix étouffée. Matt se retourna et ses compagnons, toujours agenouillés pour mener leur inspection, se redressèrent en jurant. Derrière eux, dans le couloir, une silhouette venait d'apparaître. Une des créatures dont Matt se souvenait, voire celle qu'il avait rencontrée la fois précédente. De courts cheveux roux piqués sur son crâne blafard, l'être était doté d'oreilles légèrement pointues, qui pendaient le long de ses tempes. Grand et mince, il avait des épaules démesurément larges par rapport à sa taille. Des bandes de cuir pâle couvraient sa poitrine. Pour rien au monde, Matt n'aurait voulu savoir d'où elle venait. Et un long kilt noir complétait sa tenue. Le visage était encore plus frappant que le reste. De grands yeux clairs avec au milieu l'ombre d'un iris, une mâchoire étroite et une sorte de museau pointu. Comme celui d'un renard. Bref, il s'agissait d'un Eelfine, membre du peuple qui dominait cet univers. Et il était venu jouer avec les souris coincées dans le labyrinthe.
« Dans ce sens, il n'y a pas de pacte !»
dit Matt, en s'efforçant d'empêcher sa voix de trembler.
« Nous pouvons apporter tout ce que nous voulons !»«
Ne pas avoir de pacte est dangereux !» souffla l'Elfine. « Pour vous, par bonheur, je peux vous conduire là où vous voulez aller. »«
Dans ce cas !»
fit Matt.
« En route !»«
D'abord !» « Abandonnez votre fer, vos instruments de musique et votre feu. »«
Jamais !»
L'Elfine cligna des yeux, puis il avança à pas lents. Matt leva son achane d'areille, mais la créature n'esquissa pas le moindre geste menaçant. Tournant autour des trois compagnons, elle souffla.
« Allons, ne pouvons-nous pas parler courtoisement ? Vous êtes venus dans notre royaume pour y chercher quelque chose, et nous avons le pouvoir de vous accorder ce que vous voulez. Non. Ce dont vous avez besoin. Pourquoi ne pas faire montre de bonne volonté? Laissez derrière vous tout ce qui est lié au feu, et je promets de vous guider pendant un temps. »
La voix apaisante de l'Elfine avait quelque chose d'hypnotique, et ses propos se tenaient. Pourquoi aurait-il eu besoin de feu? La brume fournissait assez de lumière, et...
« Tom !»
fit Matt.
« Musique !»«
Quoi ?» demanda le trouvère qui tremblait un peu.
« Joue quelque chose, n'importe quoi !»
Tom sortit sa flûte et l'Elfine plissa les yeux. Matt reconnut immédiatement l'air, le vent qui fait trembler les saules. En demandant de la musique, le jeune flambeur avait l'intention de distraire la créature, voire de l'inciter à baisser sa garde. Mais la chanson familière contribua à dissiper la brume qui avait envahi son esprit.
« Ce n'est pas indispensable !»
dit l'Elfine en foudroyant Tom du regard.
« Si, ça l'est !»
répliqua Matt.
Et il n'est pas question que nous abandonnions notre feu. Sauf si tu promets de nous conduire jusqu'à la salle centrale et de nous rendre aux moiraines.
Ce pacte-là, je ne peux pas le conclure,
dit la créature, en continuant de tourner autour des trois compagnons. Matt suivait le mouvement, histoire de ne jamais exposer son dos.
Je n'ai pas l'autorité requise.
Alors va chercher quelqu'un qui l'a.
C'est impossible. Écoutez-moi bien. Le feu n'est pas utile. Je vous guiderai jusqu'à mi-chemin de la salle centrale, la chambre des liens, si vous consentez à ne pas emporter cet abominable feu. Sa seule existence est une offense pour nous. À part ça, nous voulons combler vos désirs. »
La créature tentait de nouveau de les subjuguer, mais avec la musique de Tom, sa mélopée tombait à plat. Les yeux rivés sur l'Elfine, Matt se mit à chanter. S'il n'avait pas la plus belle voix parmi ses connaissances, il ne s'en sortait pas trop mal. L'Elfine bâilla, se laissa glisser le long d'un mur et ferma les yeux. En un éclair, il s'endormit. L'air très impressionné, Tom baissa sa flûte.
« Bien joué !»
dit Noël.
« J'ignorais que tu parlais si bien l'ancienne langue !»
Matt hésita. À dire vrai, il n'avait pas eu conscience que son dialogue avec l'Elfine s'était déroulé dans cette langue.
« Mon ancienne langue est rouillée !»
dit Noël en se massant le menton.
« Mais j'ai presque tout compris. Pour résumer, le problème reste entier, car nous ne savons toujours pas comment aller dans cette salle centrale. Sans un des êtres pour nous guider, comment y arriver ?»
Le vieil homme parlait d'or. Deux mois durant, Birgit avait erré sans savoir si sa destination n'était pas à deux enjambées d'elle. Matt se souvint de la salle où il avait rencontré les chefs des Eelfines. Une fois qu'on s'y trouvait, les créatures étaient obligées de conclure un pacte.
Il devait s'agir de la chambre des liens que le renard endormi avait mentionnée. Pauvre Moiraine. Étant venue par un des portiques rouges distordus, elle aurait dû être protégée par le traité que les Elfines devaient avoir signé avec les Antiques Aes Sedai. Mais ce passage avait été détruit. Plus de moyen de revenir en arrière. Lors de la visite de Matt, les Elfines avaient admiré sa sagesse, parce qu'il avait eu la présence d'esprit de demander un moyen de partir. Même s'il fulminait toujours parce que les renards n'avaient pas répondu à ses questions, il comprenait à présent qu'il n'était pas là pour ça. C'était la tâche des Elfines, les serpents. Les Elfines, eux, accédaient à des demandes. Mais ils les arrangeaient à leur sauce et exigeaient un prix exorbitant. Involontairement, Matt avait demandé que sa mémoire soit remplie, qu'on le libère des Aes Sedai et qu'on le fasse sortir de la tour de Genjei. Si Moiraine avait omis d'exiger un moyen de sortir, ou si elle avait voulu retourner au portail triangulaire sans savoir qu'il n'existait plus. Matt avait demandé une sortie, et les créatures la lui avaient fournie. Hélas, il ne se souvenait plus de ce que c'était. Après que tout fut devenu noir dans son esprit, il s'était réveillé pendu à la chaîne d'oreille. Il prit deux petits objets dans sa poche et serra le poing.
Les Elfines et les Elfines vont et viennent ici, souffla-t-il. Il doit y avoir un bon chemin.
Un seul, oui,
fit Noal.
Mais quatre possibilités, suivies par quatre possibilités, puis encore quatre possibilités, et les probabilités sont contre nous. Très largement.
Les probabilités,
fit Matt, en ouvrant la main pour dévoiler une paire de dés.
Un type comme moi se fiche des probabilités.
Noal et Tom regardèrent les dés en ivoire, puis ils dévisagèrent le jeune flambeur, qui sentit sa chance bouillonner en lui.
Deux dés. Au maximum, je peux tirer un 12. Si je tire un 1, un 2 ou un 3, on va tout droit. Un 4, un 5 ou un 6, on prend le couloir de droite. Un 7, un 8 ou un 9, on revient sur nos pas, et ainsi de suite.
Matt,
fit Noal, en jetant un coup d'œil à l'Elfine endormie.
Tu ne tireras jamais de 1. Et un 7 est beaucoup plus probable que...
Tu ne comprends pas, Noal,
dit Matt en jetant les dés sur le sol. Ils roulèrent sur les écailles noires en claquant comme les dents d'un poltron.
Quand je suis dans un coup, ce qui est probable ne compte pas.
Les dés s'immobilisèrent. En équilibre entre deux dalles, l'un d'eux resta sur une arête. L'autre afficha un magnifique 1.
Qu'en penses-tu, Noal?
Demanda Tom.
On dirait bien qu'il est capable de tirer un 1 avec deux dés, ce gaillard.
Eh bien, ça m'embouche un coin,
fit le vieil homme. Matt reprit sa lance, ramassa les dés et prit le couloir d'en face. Ses compagnons le suivirent, abandonnant l'Elfine à sa sieste. À l'intersection suivante, Matt tira un 9.
On revient sur nos pas?
Demanda Tom, perplexe.
C'est
exactement ce qu'on va faire,
confirma Matt. Quand il fut retourné dans la salle précédente, les Elfines n'étaient plus là.
« Ils ont dû le réveiller, »
avança Noal.
« Ou c'est une salle différente, »
dit Matt en lançant ses dés. Un autre 9, donc encore un retour en arrière.
« Les Elfines et les Elfines ont des règles, »
dit le jeune flambeur, en s'engageant dans le couloir censé les ramener sur leurs pas.
« Et cet endroit aussi. »«
Matt, »
dit Noal.
Les règles doivent avoir un sens.
Il faut qu'elles soient cohérentes,
admit le jeune flambeur.
Mais ça n'implique pas qu'elles obéissent à notre logique. Pourquoi le devraient-elles?
Pour lui, c'était limpide. Tom et Noal sur les talons, Matt courut un long moment. Ce couloir se révéla beaucoup plus long que les autres. Quand ils atteignirent la salle, le jeune flambeur était à bout de souffle. Il lança les dés et ne fut pas étonné par le résultat. Encore un 9. En arrière toute.
Matt, c'est de la folie!
Halta Noal, alors que les trois compagnons recommençaient à courir.
De cette façon, nous arriverons nulle part!
Matt ignora l'oiseau de mauvais augure et continua son chemin. Assez vite, ils furent de nouveau en vue de la première salle.
Matt!
Gémit Noal.
Ne pourrions-nous pas au moins?
Le vieil homme se tut dès qu'il fut rentré dans la première salle. Sauf que ce n'était pas elle. Dans cet immense espace entouré de hautes colonnes noires dont le sommet se perdait dans les ombres de la voûte, le sol était d'une blancheur immaculée. Comme des chutes d'eau qui auraient coulé dans la mauvaise direction, la brume blanche du couloir se déversa dans la salle et monta aussitôt vers la voûte. Même si le sol et les colonnes faisaient penser à du verre, Matt paria qu'au toucher il serait poreux comme de la pierre. Ici, la lumière était fournie par les bandes jaunes fluorescentes qui couraient le long des canelures de chaque colonne noire. Tom tapa sur l'épaule de Matt.
« Fiston, c'était de la pure folie, mais tu es très efficace, à ta façon. »«
Exactement ce qu'on est en droit d'attendre de moi, »
dit le jeune flambeur, en portant une main à son chapeau pour l'incliner vers l'avant.
« Je suis déjà venu dans cette salle. Nous sommes sur la bonne piste. Si Moiraine est encore vivante, elle ne devrait pas être loin. »